France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le roman dont vous allez entendre des lectures et une analyse dans quelques instants est à la fois une œuvre littéraire et un document scientifique. Ce roman, il faut le nommer, il s'intitule Mars et il est l'œuvre de Fritz Zorn, un pseudonyme. Sa première publication en langue allemande date de 1977 et sa version française de 1979. Ce texte est une œuvre littéraire par son style très personnel, le registre dans lequel il s'inscrit, celui de la confession, de l'écriture de soi, en même temps que la description clinique d'un milieu social, la grande bourgeoisie suisse de Zurich au milieu du XXe siècle. Mais c'est aussi donc un document scientifique par son propos. L'auteur, qui se sait condamné par un cancer quand il écrit ce récit de sa vie, affirme que les racines, les causes de cette maladie sont psychosomatiques. Fritz Zorn l'écrit clairement dès les premières lignes du roman. Son cancer, c'est son éducation, bourgeoise, pudibonde, taiseuse. Son éducation et toutes les impossibilités que cette éducation provoque chez lui. Impossibilité de dire ses émotions, négation de toute affection, de toute sexualité. Négation du corps, et en retour, son corps qui finit par se retourner contre lui. À la fin des années 1970, cette affirmation n'avait rien d'évident, et de fait, à notre époque encore, le débat reste entier sur les causes de l'apparition et du développement du cancer. Mais ce témoignage tire sa force de sa cohérence et de la démarche qu'il constitue, l'ébauche d'une révolte. Révolte tardive et sans issue malheureusement, mais révolte salutaire tout de même. Voici donc Mars dans Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 février 1980.
Publié en 1977 en Allemagne, ce livre de Fritz Zorn que va présenter Bernard Latour et qui paraît chez Gallimard, ce livre est en train de faire le tour du monde et ce livre connaît partout le même succès. Mars, c'est son titre, est préfacé par Adolf Muschk qui nous donne quelques indications sur ce personnage, Fritz Zorn, plutôt sur ce personnage qui se cache derrière ce pseudonyme. C'est un homme qui appartenait au gratin de Zurich et qui est mort à 32 ans d'un cancer généralisé, Fritz Zorn. Traduit pour l'édition française par Gilbert Lambridge, ce livre est une confidence, c'est une confession. Zorn veut récapituler sa vie, comme on dit que les mourants revoient leur existence en accéléré. Mais de même qu'on ne connaît le bonheur que quand on ne le vit plus, la vie éclate dans sa profusion chez celui qui va mourir, surtout quand il est jeune. Et ce livre d'un mourant est beaucoup moins la description clinique d'un état dont le héros éprouve toutes les souffrances que la révolte contre la condition humaine, la société qui accepte que des gens bien portants s'étiolent avant d'avoir commencé à mourir. Dire toute l'horreur d'une vie à laquelle on tient seulement par peur de mourir, c'est tout le sens de ce livre. Rêveuse bourgeoisie, dit-on. Mars est plutôt le procès de la calme bourgeoisie. Calme comme la mort, bourgeoisie où on vit petitement, chichement, où on se cache, car on veut cacher son avoir. Bourgeoisie où on refuse ce qu'on est, on se montre dolent, travailleur, ennuyé, car il faut bien payer par un faux air tout ce qu'on se refuse, c'est-à-dire la vie et tous ses pouvoirs. Le livre de Fritz Zorn est un combat contre cette léthargie, contre le père, riche bourgeois zurichois mort à 60 ans d'un infarctus. L'essentiel n'est pas bien sûr ce qu'on fait d'un homme, l'essentiel c'est ce que cet homme fait de ce qu'on a fait de lui. Mais quand on est grabataire, qu'on a été toute sa vie dépendant, puceau, cultivé, gentil, comment changer quoi que ce soit ? Comment réinventer sa vie ? Je me révolte, donc je suis, disait l'homme révolté de Camus, c'est tout ce que peut faire Le grabataire, Fritz Zorn, se révoltait. Mais sa révolte, c'est le cri d'un homme qui ne peut plus supporter la patience d'une vie où, dès l'enfance, on vous prépare seulement à mourir.
Je suis jeune et riche et cultivé. Et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. C'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi, si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que, depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois avant de tomber malade. Ça ne signifie cependant pas que je vais qualifier ma situation de particulièrement agréable. Je veux dire simplement qu'entre un état particulièrement peu réjouissant et un état simplement peu réjouissant, le second est tout de même préférable au premier. Je me suis donc décidé à noter mes souvenirs dans ce récit. Autrement dit, il ne s'agira pas ici de mémoire au sens ordinaire, mais plutôt de l'histoire d'une névrose, ou du moins de certains de ses aspects. Ce n'est donc pas mon autobiographie que j'essaie d'écrire ici, mais seulement l'histoire et l'évolution d'un seul aspect de ma vie, même s'il n'en est jusqu'à présent l'aspect dominant, à savoir celui de ma maladie. Je voudrais essayer de me remémorer le plus de choses possibles ayant trait à cette maladie qui me paraissent typiques et importantes depuis mon enfance. S'il faut donc que je me rappelle mon enfance, je dirais tout d'abord que j'ai grandi dans le meilleur des mondes possibles. D'après cette remarque, le lecteur intelligent comprendra tout de suite que l'affaire devait forcément mal tourner. D'après tout ce qu'on m'a raconté sur moi, j'ai dû être un enfant très aimable, éveillé, joyeux et même épanoui. On peut donc supposer que j'ai eu une enfance heureuse. D'autre part, je songe ici à un article paru dans une rubrique consacrée aux ennuis psychologiques où il était question d'un jeune homme qui n'arrivait pas à se débrouiller dans la vie, savait sur quel pied danser et ne se sentait pas capable de maîtriser son existence, ce qui était d'autant plus surprenant qu'il avait eu une enfance très heureuse. Le commentaire du brave homme de psychologue chargé du courrier était fort simple. Si, à présent, le jeune homme en question se sentait hors d'état de prendre sa vie en main, incontestablement aussi, son enfance n'avait pas été heureuse. Donc, si maintenant je réfléchis à la façon dont jusqu'ici j'ai pris, ou plutôt n'ai pas pris, ma vie en main, je ne puis que supposer que moi non plus, je n'ai pas eu une enfance heureuse. À vrai dire, il m'est difficile de me rappeler des détails particulièrement malheureux de mon enfance. Au contraire, tout ce qui m'est resté de mes jeunes années semble en général très satisfaisant, et je trouverais exagéré de faire aujourd'hui, autour de quelques chagrins d'enfant, un bruit que ceux-ci ne méritent pas. Non, en vérité, tout allait toujours bien, et même beaucoup trop bien. Je crois que c'est justement ça qui était mauvais, que tout aille toujours beaucoup trop bien. Dans ma jeunesse, presque tous les petits malheurs, et principalement tous les problèmes, m'ont été épargnés. Il faut que j'exprime cela encore plus précisément. Je n'avais jamais de problème. Je n'avais absolument aucun problème. Ce qu'on m'évitait dans ma jeunesse, ce n'était pas la souffrance ou le malheur, c'était les problèmes. Et par conséquent, la capacité d'affronter les problèmes. Paradoxalement, on pourrait formuler la chose ainsi. Le fait que je me trouvais dans ce meilleur des mondes possibles, c'était justement cela qui était mal. Le fait que dans ce meilleur des mondes, tout n'était jamais que délices, harmonie et bonheur, c'était justement cela, le malheur. Ben, tout de même, un monde exclusivement heureux et harmonieux, cela ne peut pas exister. Et si le monde de ma jeunesse prétend avoir été un pareil monde, uniquement heureux et harmonieux, il faut qu'il ait été dans ses fondements même faux et menteur. Je vais donc essayer d'exprimer les choses de la façon suivante. Ce n'est pas dans un monde malheureux que j'ai grandi, mais dans un monde menteur. Et si la chose est vraiment bien menteuse, le malheur ne se fait pas attendre longtemps. Il arrive alors, tout naturellement.
Michel Contat, voici donc le début du livre et d'emblée nous savons ce à quoi nous devons nous attendre. Nous allons avoir une grande réflexion, c'est un livre intime et l'auteur va se plonger sur lui-même avant toute chose. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, nous devons peut-être d'abord rendre hommage à la traductrice, car le livre est écrit en allemand, c'est un livre d'un Zurichois, et nous avons l'impression, même si on n'a pas lu, si on n'a pas eu quelques lignes d'allemand sous les yeux, on a l'impression tout de même que ce texte correspond bien, la traduction française correspond bien à la sensibilité profonde.
Je dirais que c'est une des plus belles traductions qui m'a été donnée de lire. Là, je voudrais rendre un hommage tout particulier à Gilberte Nombrix, parce que la langue allemande, et en particulier la langue suisse-allemande, dont on trouve parfois des traces en traduction dans ce très beau travail qu'a fait Gilberte Nombrix, est une langue difficile à restituer en français. Et je trouve qu'elle a fait un travail de création littéraire sur ce texte qui est tout à fait admirable.
D'ailleurs, le livre de Fritz Zorn a été traduit en plusieurs langues actuellement. En langue anglaise aussi, également.
Il est en cours de traduction, à ma connaissance. Et il a paru déjà en Italie. Et il se peut d'ailleurs que le relatif insuccès de ce livre en Italie, alors qu'en France, il connaît actuellement un bouche à oreille tout à fait étonnant et il y a de plus en plus de gens qui le lisent. En Italie, il a relativement mal marché et il se peut que là, la traduction en effet n'ait pas rendu justice au texte.
Michel Contat, lors de cette émission, et Raoul Guillet lit les textes, a lu le premier texte que nous avons entendu et nous allons en entendre d'autres. Lors de cette émission, nous allons être amenés à parler donc de cette bourgeoisie de Zurich, cette haute bourgeoisie dorée de Zurich, de l'entre-deux-guerres. Mais si vous le voulez bien, après l'écoute de ce premier passage, nous allons uniquement nous pencher sur l'aspect psychologique de Fritz Zorn. D'ailleurs, disons tout de suite aux auditeurs que Zorn, qui veut dire colère en allemand, est un pseudonyme et qu'en réalité, le nom de famille de l'auteur, et ceci est très curieux, Angst, et Angst, c'est l'angoisse en langue allemande.
Oui, c'est un nom d'ailleurs assez répandu en Suisse. On peut même se demander pourquoi tous les Suisses ne s'appellent pas Angst, puisque la Suisse est véritablement le pays de l'angoisse existentielle. Et je crois que, sans tomber dans une radiographie trop dénigrante de ce pays, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la Suisse est au fond la pointe avancée de l'Occident moderne. Et nous assistons un peu atterrés à la progressive helvétisation de la France, d'autres pays. Et je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ce livre parle aux gens de façon aussi directe et aussi grave. Alors, la Suisse, oui, c'est une sorte de passage à la limite de problèmes que tout le monde développé connaît.
Pointe avancée, qu'entendez-vous par pointe avancée ?
Eh bien, c'est un pays qui a résolu ses problèmes sociaux par une harmonie sociale, par ce qu'on appelle en Suisse la paix du travail. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait le plus peur aux Suisses, c'est le conflit. Et si on considère que la vie est faite de conflits et que ces conflits doivent, d'une manière ou d'une autre, pouvoir s'exprimer, la Suisse est le pays où les conflits sont le plus sévèrement refoulés. Je ne dirais pas réprimés, parce qu'il s'agit véritablement d'un refoulement au sens psychologique. Et Zorn est la victime typique d'une famille, d'une société dans laquelle la bienséance, la politesse, l'harmonie factice est la règle absolue à laquelle il faut se conformer. Donc Zorn était au départ un conformiste. Et c'est son cancer associé à une psychothérapie qui lui a révélé au fond la gravité de la névrose dont il était atteint. Et l'équation qu'il pose, c'est conformisme égale névrose.
Mais Fritz Zorn l'avoue lui-même dans ce premier passage, l'absence de conflit, l'absence de dualité, l'absence d'antagonisme empêche la maturité normale de l'individu. Mmh. Il le reconnaît lui-même.
Oui, tout à fait. Il reconnaît tout, n'est-ce pas ? Il prend le cancer comme un signe. Et l'intérêt de ce livre, puisque nous en parlons, comme vous le souhaitez, d'abord sous un angle psychologique, c'est la prodigieuse intelligence de son propre cas que Zorn manifeste. Parce que ce livre peut être considéré comme une espèce d'histoire de cas au sens psychanalytique du terme. C'est un compte-rendu, un rapport sur une névrose. Et c'est une névrose qui n'est pas uniquement personnelle. Zorn la montre comme la résultante d'une névrose familiale qui est elle-même l'intériorisation d'une espèce de névrose sociale. Voilà.
Mais si le conflit, si l'antagonisme amène la maturité, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas d'antagonisme en Suisse, est-ce qu'il faut en conclure que les Suisses sont immatures?
Oui, sans doute, d'une certaine façon. C'est ce qui fait qu'en effet, on rencontre en Suisse beaucoup de comportements infantiles, de comportements géniards, de comportements accablés. Oui, c'est un pays triste, c'est vrai. Et disons que c'est un pays qui reste un peu fixé au stade du malheur de l'adolescence, oui, sans doute.
Un dernier point sur lequel nous attardons avant d'écouter un deuxième passage, c'est justement ce caractère propre de la ville de Zurich qui est le pays de Carl Gustav Jung. Rappelons que Carl Gustav Jung, directement issu, bien que s'étant fâché avec son maître, de l'école de Freud. Mmh. Et est-ce que justement, dans ce travers, ce livre de Zorn, nous ne retrouvons pas les problèmes que Jung a dû résoudre et qui concernaient précisément cette bourgeoisie zurichoise?
Écoutez, alors là, vous me posez une question à laquelle je suis mal armé pour répondre, étant donné que je connais très très mal Jung et que, disons, je nourris, comme beaucoup d'intellectuels contemporains, des préventions très fortes à l'égard de Jung. Moi, je dirais plutôt que ce livre est, si vous voulez, l'illustration de théories antipsychiatriques. L'antipsychiatrie, comme des gens comme Leng et Cooper l'ont établi, en particulier en se fondant sur les travaux de Sartre, si l'antipsychiatrie est une manière de comprendre la névrose individuelle comme une névrose familiale et sociale, ce livre en est parfaitement l'expression.
Eh bien, ceci nous permet donc d'aborder le second aspect du livre sur lequel nous allons revenir plus en détail et qui est précisément l'aspect sociologique donc de la bourgeoisie d'entre-deux-guerres. Alors, tout premier plan, celui de l'aspect sexuel, de la vie sexuelle dans cette bourgeoisie d'entre-deux-guerres.
Formulé en termes connus de tout enfant élevé dans la bourgeoisie, on ne parle pas du sexe. Dans la mathématique de frustration, l'équation s'énonce de la façon suivante. On ne parle pas de la sexualité, donc elle n'existe pas. Égale, la sexualité n'existe pas, donc on n'en parle pas. Les choses se passaient donc chez nous, comme dans tous les milieux semblables, nous ne parlions pas de la sexualité. Ce mot était rayé de notre vocabulaire. Ce qui me permet d'aborder un autre charmant sujet, la grande affaire de toute éducation, dont le seul nom est une horreur en soi, l'information. Comment on peut expliquer tout l'univers aux enfants sans compromettre leur salut ? Et qu'il faille cependant les informer sur la procréation et la naissance, tout en éprouvant une peur terrible que leur salut en soit effectivement compromis, voilà une énigme que je ne suis pas arrivé à résoudre jusqu'à ce jour. Enfant, je savais que les communistes sont méchants et que les anticommunistes sont bons. J'étais initié à certaines arguties théologiques selon lesquelles, par exemple, la religion et son église étaient bonnes, quoique Dieu fût mauvais. Mais ce que c'était qu'un homme et ce que c'était qu'une femme. Cela, je ne le savais pas, car on ne m'en avait tout bonnement pas informé. Pour ce qui était de découvrir le domaine de la sexualité, j'en étais entièrement réduit à mon inspiration, et j'obtenais d'ailleurs d'assez jolis résultats. Je savais que les petits-enfants naissent parce qu'un homme et une femme ont été ensemble, et que les petits-enfants sortent de la mère. Je me figurais dès lors que l'homme a une émanation mâle et la femme une émanation femelle, et que quand un homme touche une femme, la transpiration de l'homme pénètre dans la femme par la peau, et qu'un enfant se forme alors dans le corps de la femme. Cependant, comme il fallait que cet enfant sorte, et comme j'avais appris que le nombril était le centre du monde, il était évident que les bébés quittaient le corps maternel par l'ouverture du nombril. Plus tard, j'appris aussi qu'il existait des enfants illégitimes pour qui c'était arrivé, ce qui signifiait naturellement que l'homme avait touché la femme par distraction, peut-être à un moment où il transpirait beaucoup. De sorte que, malgré toutes les précautions, un peu de la sueur de l'homme avait pu pénétrer dans la femme, par le poignet par exemple, si bien que c'était arrivé. Toutefois, ce savoir restait mon secret, car je savais qu'il n'était pas bon de parler de ces choses. Un jour, en lisant, j'étais tombé sur le mot « chaste ». Et je n'étais pas parvenu à m'en expliquer le sens. Comme je questionnais ma mère, elle fut prise de la plus grande gêne. Je ne comprenais pas bien si, tout simplement, elle ne savait pas ce que signifiait « chaste » ou si elle ne pouvait ou ne voulait pas me le dire. Seul était clair qu'il lui était profondément désagréable de se voir empêtré dans la situation créée par moi de devoir m'expliquer le mot « chaste ». C'était comme quand on parlait de Dieu à mon père. C'était quelque chose de très, très mal, qui aurait bien mieux fait de ne pas se produire, un sujet qu'on n'aurait pas dû aborder, si bien que tout le monde respirait une fois qu'on l'avait laissé tomber. Malheureusement, dans mon innocence, je sauvais la pénible situation en proposant moi-même une explication. D'après le contexte où apparaissait le mot « chaste », il pouvait signifier quelque chose comme « convenable ». Et je formulais cette supposition devant ma mère. Aussitôt, l'expression d'angoisse disparut de son visage. Soulagée, elle dit « oui, c'est exactement ça que ça veut dire ». Et l'hélènement gênant disparut aussitôt. Plus tard, quand j'eus appris ce que c'était que chaste, je compris aussi que ce n'était pas un sujet de conversation. Cela faisait partie des choses compliquées. Manifestement, la sexualité n'était pas harmonieuse. Était au nombre de toutes ces choses inexprimables qu'il fallait bannir du petit horizon de notre harmonie domestique. Dès lors, je considérais tout ce qui est sexuel comme parfaitement hostile, méchant, et redoutable. Naturellement aussi, je rougissais toujours dès qu'une conversation s'orientait vers les questions sexuelles. Et cela aussi, je le craignais, puisque j'avais honte de rougir. Lorsque j'eus effectivement percé à jour le secret de la procréation, et que mes folles idées de sueur au poignet se furent dissipées, le coït m'apparut comme une chose terrifiante, épouvantable et répugnante, et j'eus le sentiment que moi-même, je ne serais sans doute jamais capable d'un acte aussi abject. Une fois surmontées mes premières frayeurs, demeura cependant la pudeur excessive, et même dans les classes supérieures du lycée, mes rougeurs intempestives me mettaient à la torture lorsque j'étais le seul élève qui rougissait au cours devant des propos que mes camarades accueillaient avec le plus grand calme. L'école était d'ailleurs l'endroit où devait se faire la sale besogne de l'information en matière sexuelle, comme mes parents, et sans doute pas uniquement les miens, l'avaient si ardemment espéré afin de ne pas se trouver eux-mêmes dans cette position désagréable, même si la chose eut lieu bien tard. Il s'agissait avant tout d'un exposé médical qui avait pour objet d'inspirer aux grands élèves la terreur des rapports sexuels. Le médecin scolaire fit projeter sur le mur une série de schémas des organes génitaux des deux sexes, et pour couronner le tout, la reproduction gigantesque en couleurs atroces, des parties sexuelles de la femme. Puis il déclara d'une voix émue. « Hélas, oui, mes enfants, tel est en réalité l'horrible aspect de la femme. Aucun de vous n'aura sans doute envie d'entrer là-dedans, pas vrai ?» Suivirent des photographies de syphilitiques aux divers stades de la décomposition, car c'était manifestement là le résultat de l'amour. En guise de conclusion, le médecin nous parla encore d'une particularité. En Amérique, certaines statistiques auraient démontré qu'apparemment beaucoup de garçons se donnaient à eux-mêmes la satisfaction sexuelle. Mais en fait, cela ne devait être considéré que comme une curiosité, car toujours selon la statistique, il ne s'agissait que d'un petit pourcentage qui allait en diminuant, de sorte qu'on ne pouvait pas parler à ce propos d'un problème vraiment représentatif. Puis d'ailleurs, ça se passait qu'en Amérique. Sur ce, nous étions informés. L'exposé n'avait pas fondamentalement modifié ma conception du monde. Il avait simplement confirmé ce que je savais depuis longtemps, que la sexualité n'était pas bien, mais mal. La plupart du temps, naturellement, on n'aime pas employer pour la qualifier les deux mots « bien » et « mal ». De nos jours, personne n'ose plus, comme un moine du Moyen-Âge, désigner la sexualité comme la quintessence du mal. Bien au contraire. On se montre informé et l'on s'empresse d'accorder que la sexualité est même très importante et joue un rôle immense, qu'on ne peut absolument pas s'en passer et qu'elle est même indispensable à la vie et à la conservation de l'espèce. Bref, on admet que cet aspect de la vie existe bien aussi, qu'on a donc pris ses distances par rapport à l'idée que la sexualité serait le diable en personne. Personne, cependant, ne déclarerait publiquement que la sexualité est la meilleure chose qui soit. Aujourd'hui encore, le slogan hippie « Faites l'amour, pas la guerre » a une résonance obscène aux oreilles bourgeoises. Pourtant, personne ne conteste que la guerre est au fond une chose négative, bien que nécessaire, hélas. Pour quelle raison elle est, à vrai dire, si absolument nécessaire, on ne sait pas la plupart du temps. Pas plus qu'on ne peut formuler clairement en quoi l'amour est une chose mauvaise. Mais allez jusqu'à dire franchement que non seulement l'amour est bon, mais qu'il est même meilleur que la guerre. Voilà une vérité qui dépasse encore la société bourgeoise. Cela a toujours l'air d'une obscénité. Finalement, on n'est pas un amoureux, mais un soldat, ne serait-ce que parce qu'on est suisse. Comme exemple typique de cette attitude, on pourrait citer la représentation du monde au cinéma. Aujourd'hui encore, les films porno sont interdits, ou du moins mis au banc et censuré. Mais un film sur la guerre, le meurtre et la violence n'a aucune censure à redouter.
Michel Conta, à travers ce problème de la sexualité, nous avons directement abordé le problème des sociétés qui se refusent à être simplement des sociétés sincères et qui ne vivent que dans une immense imposture.
Oui, je crois que le cas de Zorn, dont on a pu dire qu'il montrait le meurtre d'une âme, montre que l'âme et le corps, c'est la même chose. Et si l'âme de Zorn a été assassinée dans son enfance, c'est que son corps a été nié. Et tout le passage qu'on vient d'entendre, qui montre aussi l'humour de Zorn et qui est très important, c'est ce qui fait d'ailleurs que ce livre, qui parfois provoque une angoisse insoutenable, provoque aussi une espèce de plaisir de l'intelligence qui tient au fait qu'on voit quelqu'un prendre une certaine distance ironique par rapport à son propre, à sa propre tragédie. Il ne s'agit pas du tout d'un livre complaisant. Donc ce problème du corps, de la négation du sexe, cela fait partie de toutes ces choses que l'on nie, qui représentent la vie dans ce qu'elle a de désordonné, de dangereux, de menaçant. Et la conséquence, c'est que le corps, d'une certaine façon, a fait retour. Le corps nié chez Zorn a fait retour sous la forme du cancer. Lorsque ce cancer s'est déclaré chez Zorn, il l'a interprété, il avait une tumeur au cou, comme les larmes qu'il n'avait jamais pu verser, puisqu'au fond, la bienséance voulait qu'on soit heureux, étant donné que, comme le premier extrait qu'on a entendu le disait, on vit dans un monde où il n'y a pas de problème, où il ne doit pas y avoir de problème. Et donc, quand ces problèmes sont niés, sont refoulés, eh bien, d'une façon ou d'une autre, ils réapparaissent. Et alors, c'est là que nous touchons à l'une des originalités de ce livre, c'est qu'il, de façon tout à fait non théorique et non abstraite, il montre le lien de ce qu'on appelle la psyché et du corps, c'est-à-dire c'est une démonstration de certaines théories de la médecine psychosomatique. Et à ce titre-là, ce livre aussi est un document sur les aspects psychologiques dans les causes, l'anamnèse, si vous voulez, du cancer.
Mais la négation à la répression de la sexualité est directement liée en Occident au problème de la religion. Et là, la répression de la sexualité n'est pas uniquement un facteur zurichois de l'entre-deux-guerres, c'était un facteur général à toute la bourgeoisie occidentale. Et c'est apparu, en fin de compte, dans le courant du siècle dernier, avec justement l'accession de la bourgeoisie au pouvoir et à la grande richesse, car en fin de compte, les sociétés des classiques de la Renaissance, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque classique, ont été des sociétés infiniment plus paillardes que la société du 19e ou la société du début du 20e siècle.
Oui, alors nous vivons encore, je crois, malgré la prodigieuse libération sexuelle qui semble déferler sur notre monde, nous vivons, je crois, encore sur la planète du sexe interdit. Même si les comportements semblent s'être décrispés, je crois que profondément, il reste encore une culpabilité, une impossibilité de s'admettre comme être sexué, d'admettre l'autre comme être sexué. Et de ce point de vue-là encore, le livre de Zorn, le cas de Zorn, est un symptôme, évidemment poussé à l'extrême, mais d'une espèce de mal profond de notre monde, oui.
Mais une chose qui frappe également dans le passage que nous venons d'entendre, c'est cet égocentrisme de classe sociale. Car enfin, automatiquement, si on n'est pas de cette classe sociale, on est un être abject, c'est automatique. Et puis également, à cette époque, là pour le Suisse en l'occurrence, ce qui se passait hors de Suisse, ma foi, ça n'avait pas d'importance. Il n'y avait que la Suisse qui avait raison. C'est un peu la réaction que des hommes de mon âge ont connue dans leur enfance. Ce qui se passait hors de France n'avait pas d'importance. C'était dans une autre planète et ça n'existait pas.
Ça, on le retrouve aussi aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une espèce d'insularité de la bourgeoisie qui se sent au fond menacée. C'est un comportement obsidional. Je crois que la bourgeoisie se sent en permanence menacée. Donc elle se referme, elle essaye d'offrir le moins de prise possible aux agressions extérieures. D'où d'ailleurs aussi justement cette négation du corps. Le corps, c'est par là qu'on souffre. Et il s'agit de se fermer, de se protéger à tout prix. Oui. Cela dit, vous disiez que c'était typique de la bourgeoisie d'entre-deux-guerres. N'oublions pas que Zorn est né en 44, que dans toute son enfance s'est déroulée après la guerre. Et il se peut aussi que dans le cas de la Suisse, qui est resté neutre durant la guerre, ce comportement insulaire auquel je faisais allusion a été accentué justement par sa situation durant la guerre.
Et bien, nous allons écouter un autre passage du livre.
La chose épouvantable qui m'avait torturé toute ma vie sans avoir de nom, à présent, en avait enfin reçu un. Et personne ne contestera que ce qui est terrible et connu vaut toujours mieux que ce qui est terrible et inconnu. Dans de vieilles formules magiques, le diable est souvent conjuré parce qu'on lui dit son nom. Le célèbre Rumpelstiltskin est lui aussi vaincu dès que la reine peut lui dire qu'il s'appelle Rumpelstiltskin. Il en va de même du cancer. Personne ne se hasarde à prononcer le mot « cancer ». Rien d'étonnant à ce qu'on n'ait pas pu, jusqu'à présent, vaincre le cancer. Je n'ai pas encore rencontré de médecin qui prononcerait le mot « cancer ». Et parce que les médecins n'osent pas appeler le diable par son nom, naturellement, peuvent pas non plus le chasser. Bien sûr, les patients sont sans cesse opérés, traités par les rayons et gavés de médicaments. Mais il manque la partie la plus importante de la thérapeutique. Chacun sait que le dernier des sirops pour la toux et le plus bête comprimé ne servent à quelque chose que si le patient y croit. Si le patient y croit, on peut même lui donner en guise de comprimé un morceau de craie et il guérit. Mais dans tous les traitements du cancer, le monde médical s'enveloppe généralement de silence, de sorte que le patient perd la foi en l'efficacité du traitement. Et par conséquent, on ne peut pas le guérir. Mais ce ne sont pas seulement les médecins qui ne parlent pas du cancer. Absolument personne n'en parle. Le mot est tabou. Sans doute, mes pauvres parents auraient-ils dit à ce propos que le cancer est quelque chose de compliqué. C'est ainsi que le cancéreux est condamné à désespérer totalement et à mourir de son désespoir. C'est pourquoi je crois aussi que le cancer est en premier lieu une maladie de l'âme et qu'il ne faut considérer les diverses tumeurs cancéreuses que comme des manifestations corporelles secondaires de la souffrance, car le cancer présente bien toutes les caractéristiques d'une maladie morale. Si on a pris froid, ou si on a la grippe, on peut en parler. Mais si on est déprimé, on ne peut pas en parler. Je crois que les gens prennent froid aussi afin de pouvoir enfin se plaindre pour une fois sans enfreindre les règles de la bienséance. Je crois que, là aussi, je me suis une fois de plus bien conduit conformément aux usages et conformément au cancer. Toute ma vie, j'ai été malheureux. Et toute ma vie, j'en ai pas soufflé mot, à cause du sentiment bien élevé qu'une telle chose ne se faisait pas. Dans le monde où je vivais, je savais que, par tradition, je ne devais à aucun prix déranger ou me faire remarquer. Je savais que je devais être correct et conforme, et avant tout, normal. Cependant, la normalité telle que je la comprenais résidait dans le fait qu'on ne doit pas dire la vérité, mais être poli. Toute ma vie, j'ai été brave et gentil, et c'est pour cela que j'ai aussi attrapé le cancer. Et c'est tout à fait bien ainsi. J'estime que quiconque a été toute sa vie brave et gentil ne mérite rien d'autre que d'attraper le cancer. Ce n'en est que la juste punition. Encore maintenant, j'aurais eu la possibilité d'être brave et gentil et sans attirer l'attention, de m'anéantir en silence. Toutefois, ce sort m'a été épargné dans la mesure où, dans ma maladie, ce cancer célèbre et qu'on n'ose pourtant jamais appeler par son nom, proprement diabolique, et dont on meurt normalement au bout d'un temps assez bref, j'ai tout de même entrevu une sorte de mort et de résurrection, la mort ne devant plus être conçue comme purement symbolique, mais au contraire tout à fait concrète. La menace de mort me conduisait à penser que peut-être, au cas où j'échapperais tout de même, en fin de compte, à la mort, maintenant j'aurais enfin une chance de renaître vraiment, c'est-à-dire de renaître à une vie nouvelle, qui peut-être ne serait plus aussi cruel que ma vie passée.
Michel Contat, à travers ce passage, nous venons de voir tout le problème de l'individu qui est rejeté, mis à l'écart de la société. Je trouve ce passage très émouvant. Il me fait penser aux lépreux du Moyen-Âge. Dès l'instant qu'un individu n'est pas normal, on rejette et il y a des mots qu'on ne prononce pas.
Oui, c'est le problème du tabou que toute son éducation a appris à Zorn à ne pas enfreindre. Alors, le sens même de ce livre, c'est de ne plus pactiser avec tout ce qu'il a démoli, c'est-à-dire d'enfreindre ce tabou, de crier, de pousser un cri insoutenable. Et j'en viens donc à ce qui fait la valeur littéraire de ce livre. Parce que jusqu'à présent, au fond, nous avons vu en Zorn surtout un espèce de cas. Le préfacier Adolf Muschke, lui-même, qui est un écrivain d'ailleurs de talent, a tendance à diminuer le livre pour n'en faire qu'un document. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est une grande œuvre de littérature qui annonce une sensibilité nouvelle. Et non seulement par ce style d'une extrême froideur, d'une extrême intelligence, d'une extrême ironie, et un style blanc, essoré, qui fait un peu penser à la coupure que trace un scalpel sur un corps, parce qu'il s'agit véritablement d'une vivisection. Ce livre annonce une sensibilité sans complaisance qui passe carrément et de manière assurée à la révolte. Or, tout le débouché, si vous voulez, de ce livre, c'est une révolte. une mise en cause non seulement des valeurs qui ont anéanti cette vie, mais aussi de ce qui les perpétue, c'est-à-dire un régime social et, pour aller vite, le capitalisme. Alors, il faut voir que Zorn est mort en état, comme il le dit, de guerre totale. Et ce serait, je crois, réduire la portée de son message que d'y voir tout simplement le cri de souffrance d'un malheureux pour lequel on pourrait avoir de la compassion. Non, il s'agit de beaucoup plus que ça. Il s'agit d'une véritable prise de conscience qui implique aussi certaines attitudes politiques. Alors, Zorn lui-même se sentait tout à fait incapable, au cas où il l'aurait guéri, ce qu'il souhaitait encore et espérait au moment où il écrivait son livre, incapable de devenir un militant. Tout ce qu'il pouvait être, c'est quelqu'un qui au moins ne serait pas contre une révolution si celle-ci se déclenchait. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que Zorn, dans un testament, a légué ses droits d'auteur. Il ignorait évidemment que ce livre connaîtrait une telle fortune, a légué ses droits d'auteur à des organisations révolutionnaires en Suisse, et qui sont d'ailleurs assez embarrassées parce qu'elles ne savent pas trop que faire de ce legs, parce qu'elles ne savent pas non plus que faire de ce livre.
Il nous reste quelques secondes. Vous disiez que c'était une œuvre sur le plan littéraire entièrement nouvelle. Qu'apporte-t-elle dans la longue histoire des journaux intimes?
Je crois d'abord que c'est le ton nouveau qui est quelque chose de très frappant. C'est aussi, évidemment, l'intégration dans le journal intime. D'ailleurs, il ne s'agit pas véritablement d'un journal intime, mais dans la confession d'une intelligence moderne, c'est-à-dire très au fait, malgré tout, de la psychanalyse, de la politique. C'est une intelligence lucide et de notre temps.
C'était Mars, dans Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot, diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 février 1980.